Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand aime le cirque, il l'a souvent prouvé. C'est une passion qu'il partage avec Blandine Daniche dans le Nord. Notre auditrice lui a suggéré de consacrer une émission au Grand Barnum. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est amusant, dès qu'il s'agit de Barnum, vous avez remarqué que l'épithète grand revient naturellement. Big is beautiful. Cet homme, c'est vrai, a été une des grandes figures de l'histoire du cirque, même si le cirque selon Barnum n'était pas tellement celui que nous aimons ici. Quand je dis nous, c'est qu'évidemment, j'ai invité pour partager ce moment de passion, notre Christian Bonner, que connaissent nos auditeurs. Christian qui a été monsieur cirque d'ailleurs de la façon la plus officielle du monde.
Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Patrick sur l'origine des feux de la Saint-Jean.
Pas sûr que la question soit tout à fait de saison entre nous, mais elle est intéressante. Pour le moment, je vous propose de faire connaissance avec non pas un grand, mais un très petit monsieur, Tom Pouce, qui était vedette chez Barnum.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Le cirque tel qu'on le connaît aujourd'hui est apparu en Angleterre au milieu du 19e siècle, même si la France n'a pas été loin en reste. Mais c'est assez étrange d'ailleurs, cette fin du 18e et ce début du 19e siècle où l'on voit l'Angleterre inventer presque tout ce que la France développera par la suite. Alors en l'occurrence, c'est à Londres en 1768 qu'un certain Philip Astley, ça s'écrit Astley, qui était écuyer au départ, vous savez, il faisait des reprises de haute école. C'est lui qui va monter ce cirque moderne avec sa piste circulaire, ses spectacles équestres à l'époque, ses acrobaties bien entendu. Alors vont vite venir se mêler à la fête les battleurs, les mimes, les voltigeurs, etc. Un petit peu plus tard donc vont apparaître les fameux animaux sauvages. C'est du reste sur le continent qu'on verra les animaux sauvages se développer beaucoup plus qu'en Angleterre elle-même. Paris, à ce moment-là, deviendra le foyer des premières grandes ménageries, des cirques ménageries, si vous voulez. On parlera de tout ça avec Christian tout à l'heure. Ce sera aussi le foyer du cirque ambulant. Alors, celui qui va révolutionner ce monde naissant s'appelle Phineas Taylor Barnum. Lui-même se surnommait le prince des mystificateurs. C'est pas très flatteur comme ça a priori, mais en l'occurrence pour lui, ça l'était car il estimait avoir réussi là où d'autres n'auraient pas su aller aussi loin que lui. Personnage tout à fait haut en couleur que ce Barnum, dont Fabrice Plisquin qui préface ses mémoires nous dit, on pourrait presque dire que Barnum a inventé la célébrité. Nous vivons dans son monde et dans sa métaphysique, dans ses rêves et dans ses cauchemars, dans sa poésie et, disons-le, dans sa barbarie. Ce dompteur a un fouet, la communication. Il a si bien dompté son nom propre qu'il en a fait mieux qu'une marque, un nom commun connu de tous. Il a mis l'excentricité au centre du monde. Et c'est vrai que de son vivant, Barnum va apparaître comme un homme totalement hors norme, celui qui repousse toutes les limites, y compris, disons-le, on va s'en rendre compte très vite dans cette émission, un certain nombre de limites morales. Il a publié ses mémoires, ça s'appelle « La vie de Barnum » racontée par lui-même à 9 reprises. Ce prince des mystificateurs va publier « Mes exhibitions », c'est le titre ultime de ses mémoires. Alors il crée tout un ensemble de spectacles, si vous voulez, qui va voyager par le train et qui réunit une ménagerie, c'est certain, un certain nombre de numéros, mais surtout des curiosités. C'est la spécificité de cette espèce de cirque Barnum, si tant est qu'on puisse ainsi le nommer. Un cirque qui, du reste, pour ce qui est du spectacle lui-même, va bientôt se répartir chez lui sur 3 pistes. Alors, vous allez dire, c'est le contraire même de tout ce que voulait Astley, de tout ce que voulaient les fondateurs. acteurs du cirque moderne. Je pense à Franconi chez nous, etc. Leur idée à eux, c'était qu'on ait évidemment une étrivière qui fait, on tient un cheval, si vous voulez. Le cheval fait des ronds dans la sciure, donc ça dessine une piste. Et c'est au cœur même de ce cercle magique que viennent se produire les artistes. Ben oui, mais Barnum, je vous dis, il veut tout plus grand, plus extraordinaire. Il fait d'immenses chapiteaux. Il va y avoir trois pistes. Il s'entoure de toute une galerie de personnages insolites autour desquels il va inventer des histoires rocambolesques. Vous avez peut-être vu ce film extraordinaire, et d'ailleurs c'est ce qui a inspiré notre auditrice, c'est pour ça qu'elle voulait qu'on parle aujourd'hui de Barnum. Ce film s'appelle Freaks, avec toutes sortes de personnes atteintes de difformités physiques absolument extraordinaires, et c'est exactement ce qui plaît à Barnum. Il réunit ces phénomènes de foire, si j'ose l'expression, avec tout le respect et toute la tendresse qu'on peut avoir pour ces personnes, mais à l'époque on appelle ça carrément des monstres, hein, il faut pas se tromper, et il va les exhiber, tous ces gens-là, bien entendu. Et bien entendu, pour rendre leur exhibition plus intéressante, il va leur inventer toute une histoire, tout un chacun son petit roman, si vous voulez. Le plus célèbre de tous, c'est le général Tom Pouce, on va en parler tout à l'heure. Alors, un mot peut-être de la vie même de Barnum. D'où vient-il ? Il est né au début du 19e siècle. Il est né le 5 juillet 1810 dans le Connecticut, à Bethel exactement, qui est une espèce de petit village. Il faut imaginer la petite maison dans la prairie. Là, vous y êtes tout à fait, espèce de village puritain où on fabrique essentiellement des chapeaux et des peignes. Malheur à qui se promène en voiture ou monte à cheval un dimanche, nous dit une des biographes de Barnum, elle s'appelle Suzanne Blatin. Si le diacre, qui est le premier policier de la localité, le rencontre, une amende et la prison l'attendent. Et s'il se laisse aller à un juron blasphématoire, alors là, carrément, il recevra 40 coups de fouet. On ne plaisante pas dans l'Amérique de l'époque. Il est le fils, notre Phineas, notre Barnum, il est le fils d'un épicier aubergiste, le type qui tient un peu l'épicerie locale, c'est la famille Olson, vous voyez le genre, qui d'ailleurs va enchaîner toutes sortes de petits métiers, parce qu'on vit vraiment, chichement chez lui. Alors le père est tantôt tailleur, tantôt cabaretier. Mon père faisait un peu tous les métiers, dira Barnum lui-même. Aussi avait-il souvent besoin de moi. C'était un motif pour m'absenter de l'école du village et je ne profitais guère des leçons qu'on y donnait. Je dois ce que je sais à ma fréquentation ultérieure du district et à l'habitude que je pris pendant un été de me rendre à l'académie de Danbury 6 fois par semaine, bien que nous en fussions à une distance de 3000. Eh bien, c'est pas grave, il prend ses jambes à son cou, le gamin, et il suit les cours du soir, disons-le. Alors, son père meurt tôt. À ce régime, on peut le comprendre. Il meurt alors que Barnum n'a que 15 ans. Il va donc devenir soutien de famille à ce moment-là. Hein. Il doit s'occuper de sa mère, de 4 autres enfants. Je fus plus tard contraint de gagner comme commis de magasin de quoi payer les souliers dans lesquels j'avais suivi jusqu'au cimetière le cercueil de mon pauvre père, dira-t-il. Je puis donc dire que je débutais dans la vie sans un sou vaillant. Bah, ça va changer, rassurez-vous. Alors, assez vite, parce qu'il est très malin, ce gamin, à 18 ans, et donc on est en 1828, il va fonder son premier magasin, c'est un magasin de primeur d'abord, auquel il va ajouter une pâtisserie, et puis très vite il se rend compte que ça rapporte pas assez, alors il va monter des petites loteries. Et ces loteries marchant alors en revanche très bien, parce que les pâtissiers confiseurs lui faisaient les cornets qu'on donnait dans les loteries, vous voyez le genre, et donc ça va devenir alors là une véritable opération, une véritable entreprise qui va s'étendre sur l'ensemble du Connecticut. À 20 ans, ça y est, il est déjà presque riche. Je lance par dizaines de mille les circulaires et les prospectus, dira-t-il, illustrés de dessins, de figures grotesques et de points d'exclamation. Les journaux du voisinage étaient littéralement inondés de mes annonces. Il n'empêche que les temps sont durs, d'autant plus qu'il s'est marié jeune. Il a maintenant, à 24 ans, il a déjà 4 enfants, vous voyez un peu. Donc il faut en vendre des cornettes dragées hein, à ce régime, bien entendu. Il devient journaliste pendant un temps. Il fonde d'ailleurs son propre journal, The Herald of Freedom, le messager de la liberté, avec pour objectif de combattre toutes les ligues formées contre les libertés américaines. C'est vraiment, s'il y a un terme qu'il faut retenir à propos de Barnum, au-delà de l'épithète gigantic, hein, au-delà du terme grand et au-delà bien sûr de cet extraordinaire sens de la publicité, c'est celui de liberté. Voilà un homme qui s'est constamment battu pour la liberté. Ça lui vaudra d'ailleurs un certain nombre de procès. Il est arrêté à 3 reprises en 3 ans pour diffamation, vous voyez le genre. avec d'ailleurs une inculpation assez grave, la troisième, puisqu'il a accusé un pasteur d'avoir pratiqué l'usure sur un orphelin, d'avoir vendu, avoir prêté à très fort crédit. Barnum est condamné à $100 d'amende, 60 jours de prison, mais au passage, il s'est fait un nom. Au sortir de la prison, ses amis ont préparé une sorte de défilé triomphal. Il prend place dans un coche à 6 chevaux, avec un orchestre qui claironne sans discontinuer des airs patriotiques, 40 cavaliers devant, 60 voitures derrière, le canon qui tonne, des centaines de piétons massés sur le parcours pendant 4 kilomètres, qui s'égosillent, hurrah, vive Barnum, etc. Je vous le dis, c'est un génie de la publicité.
Extrait de la bande originale du film Sous le plus grand chapiteau du monde sur Europe 1, composé par Victor Young. Revenons avec vous, Franck Ferrand.
On est dans l'ambiance.
Mais oui, on y est à la vie de Phineas Taylor Barnum.
Alors, il y a un déclic dans cette vie, évidemment. On est là à l'été 1835, ce qui fait que Barnum a 25 ans. C'est facile, quand on est né en 1810, on compte facilement l'âge. Il est dans sa boutique, là, et il y a un client qui lui parle de la nounou de George Washington, qui s'appelle Joyce Heth. C'est une vieille dame noire de 161 ans. Il dit, je vous demande pardon, de 61 ans. Non. C'est bien la nounou de George Washington. Elle a 161 ans. Or, le propriétaire actuel veut la vendre. Et oui, on est à l'époque de l'esclavage, évidemment, hein. Donc Barnum se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le voilà qui file à Philadelphie pour voir cette fameuse dame. Alors il la trouve, nous dit Suzanne Blatin, étendue sur un sofa, les genoux repliés, le bras gauche en travers de la poitrine, incapable de remuer ses membres tordus. Elle est complètement aveuglée, édentée, et ses ongles démesurément longs, très sociable et même bavarde. Elle s'attendrit en parlant du cher petit George. De qui parle-t-elle? De George Washington. Vous imaginez, ça paraît complètement fou. Et après tout, se dit Barnum, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas 161 ans? Elle lui montre un papier daté de 1727 et qui certifie l'achat pour 33 livres de cette femme aveugle à moitié paralysée. À l'époque, elle aurait donc eu 54 ans, par une certaine Augustine Washington, qui est la mère du futur président Washington. Ça paraît un peu bizarre hein, quand même. Mais bon, il l'achète, c'est le terme, hein, pour $1000, cette vieille dame noire. Il l'achète au planteur du Kentucky qui voulait s'en séparer. Et aussitôt, le voilà qui part en tournée, bien entendu. Et alors là, vous imaginez bien que c'est la publicité absolue. Il est là partout, Barnum, on l'entend que lui. Et il publie un article où il révèle que Joyce Heth, en fait, n'est qu'un automate de caoutchouc. Alors ça, les gens disent, mais c'est pas possible, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Et donc ils viennent encore plus nombreux, ils sont deux fois plus nombreux pour venir la voir. On va découvrir bien sûr toute la supercherie après la mort de Joyce Heth en 1836. En fait, elle avait que 80 ans, hein, cette dame. Et on se demande si Barnum n'aurait pas au passage inventé toute l'histoire, c'est-à-dire pas seulement l'histoire de la dame, mais l'histoire de sa découverte, etc. Mais que voulez-vous? Il a ce sens-là. Il sait faire parler de lui. Alors, il va monter ce qu'on appelle l'American Museum, un endroit de cinq étages qui contient des reliques de curiosités rares venues des quatre coins de la planète, etc. Cet American Museum étant mis en vente, Barnum l'achète. Et il l'a grâce à un emprunt et une garantie foncière, un petit terrain marécageux que lui a légué son grand-père quand il était petit. On appelle ça l'île aux lières. Et ben, il va le mettre en gage pour l'occasion. Aussitôt, il agrandit l'espace et il se dit qu'il faut faire venir les gens, bien entendu. Alors, il va inventer toutes sortes de choses. D'abord, il installe un orchestre sur le balcon, un orchestre horrible, avec des musiciens qui ne savent pas jouer du tout, ce qui fait que ça fait une cacophonie pas possible, et que pour échapper à l'orchestre, ben, on a tendance à vouloir se réfugier à l'intérieur même de la bâtisse. Ça fait rentrer les clients, si je puis dire. Il a toutes sortes de ruses. En guise de réclame, un jour de fête, Barnum engage quelques-uns des plus mauvais musiciens du pays. Donc, et c'est là qu'il va avoir cette idée incroyable de créer la cacophonie, tout simplement. C'est quand même fort. C'est-à-dire que pour faire entrer les gens chez lui, il est prêt à se faire quasiment de la contre-publicité, disons-le. Une autre fois, Barnum tourne avec son cirque dans l'Alabama, où on vient de lyncher trois noirs accusés d'avoir assassiné une fermière. Barnum place une affiche sur chacun des trois pendus, figurez-vous, et il va promener ça dans la ville avec une banderole. Le peuple a fait justice, maintenant qu'ils viennent se délasser et oublier le crime et le châtiment au cirque-concert Barnum. C'est une façon de faire de la publicité que nous n'approuvons plus du tout, ça, aujourd'hui. Disons-le, voyez, entre parenthèses, la rudesse des mœurs des gens de cette époque dans l'Amérique profonde. L'endroit, dans son cirque-concert, là, cet endroit est une sorte de repère où l'on voit les choses les plus insolites qu'il y a tout, nous dit Suzanne Blatin dans l'American Museum, dont les portes s'ouvrent dès le lever du soleil, des tableaux vivants, des puces savantes, des alligators, des animaux empaillés. Dans les vitrines, minéraux et plantes enseignent l'histoire naturelle. D'immenses dioramas représentent la création du monde et le déluge. On admire également des vues de Paris, de Jérusalem, etc. Il faut vous dire qu'on est à la grande époque des dioramas et des panoramas, qui faisaient également recette à Paris. Il faut le dire. Barnum dit, c'est la première pierre de l'édifice de ma fortune. Ah, c'est pas la dernière, parce qu'alors, maintenant, il ne va plus cesser d'accumuler les phénomènes qu'il va montrer, qu'il va exhiber à la foule. Une sirène des îles Fidji, qui est en fait une tête de babouin fixée sur une queue de poisson, tout simplement. Un cheval mouton, un cheval que Barnum profitera de l'expédition du colonel Fremont dans l'ouest de l'Amérique pour faire une espèce de publicité de sa trouvaille. Il dit « L'animal, l'anifère, sera exposé pendant quelques jours à l'American Museum. La nature semble avoir exercé toute son imagination pour produire cet étrange phénomène. Il est extrêmement complexe, un mélange d'éléphants, de cerfs, de cheval, de buffles, de chameaux, de moutons. » Et on se dit, il y avait des gens pour voir ça. Mais oui, comme pour voir la femme à barbe, le garçon russe à tête de chien, les frères soudés par la hanche, une certaine Jenny Lind, le rossignol suédois. Voilà comment Barnum la vend. Cette créature virginale vient en Amérique pour gagner de quoi soutenir un hôpital d'enfants à Stockholm. Elle se sert de sa voix, un don de Dieu, dans l'infernal et répugnant égout qu'est le théâtre pour récolter de l'argent pour les malheureux. Il expose aussi toutes sortes de curiosités et toutes sortes de phénomènes. Et il va bientôt se mettre à exposer des personnes de petite haut. Quand je dis de très petite taille.
Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand, hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au Cirque Barnum.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, nous revivons avec vous, Franck Ferrand, à la création du Cirque Barnum.
Alors Barnum a réuni une espèce de collection invraisemblable de personnes, de phénomènes. Il y a toutes sortes, il présente dans des bocaux des choses absolument immondes. Enfin bon. Et il entend parler par son frère, en fait, qui est le propriétaire de l'hôtel où travaille la mère du garçon dont je vais parler, d'un certain Charles Stratton, qui est né en janvier 1838 dans le Connecticut et qui mesure 63 centimètres. Il est vraiment lilliputien, ce petit Charles. Et il ne dépassera d'ailleurs jamais les 89 centimètres. Alors ça intéresse beaucoup Barnum, qui se met en contact avec les parents. Évidemment, les parents ne sont pas d'accord pour qu'on exhibe comme ça leur fils. Simplement, il y a quand même $3 par semaine à la clé, ce qui est beaucoup pour eux. Et Barnum propose de les prendre en charge eux aussi, s'ils accompagnent leur fils. Alors bon, pourquoi pas. Barnum se dit que ça, c'est un phénomène à montrer à New York. Il va faire de grandes affiches pour annoncer l'arrivée d'Angleterre de Tom Pouce, parce que c'est comme ça qu'il a rebaptisé ce pauvre Charles Stratton. Ça devient Tom Pouce. Alors on lui apprend tout, vite à lire, à écrire, à danser, à chanter le Yankee Doodle, une espèce de chanson américaine traditionnelle. Et puis alors on l'exhibe habillé tantôt en Napoléon, tantôt en Cupidon, revêtu d'un col en rose. Il est toujours précédé de deux géants, bien entendu, ce qui permet permet d'en rajouter sur, de créer le contraste, bien entendu. Au bout de quelques semaines, il devient l'attraction numéro 1 de l'American Museum de New York avec 30 000 personnes les 6 premières semaines, vous imaginez un petit peu. Et puis, au cours d'une tournée dans le sud, Tom sera embrassé par 60 000 femmes. Il proclamera à la fin de sa vie « J'ai embrassé plus de femmes que n'importe quel homme au monde ». Bah oui, parce qu'alors il y a toute l'espèce de « ça va vous porter chance ». Enfin, vous voyez, on est vraiment dans des choses qui sont assez, assez effroyables, il faut bien le dire. Alors, Tom Pouce va devenir un tel phénomène que Barnum se dit « Mais pourquoi ne pas aller le montrer ailleurs et pourquoi pas en profiter pour se rendre directement en Europe ?» Alors, ben oui, après tout, pourquoi pas? Barnum va présenter son petit prodige à la reine Victoria en 1844. Alors ça vaut toutes les affiches du monde, vous imaginez bien. Ensuite, c'est très facile de dire, voici le phénomène qui a été présenté à la reine d'Angleterre, bien entendu. Il faut imaginer Tom Pouce avec sa perruque poudrée, un tricorne, une petite épée, qui arrive comme ça au palais de Buckingham. Voilà ce que dira Barnum lui-même. Quand les portes furent ouvertes, le général, parce qu'il avait baptisé général Tom Pouce, entra en se donnant un air si grave qu'on l'eût cru bien moins une créature vivante qu'une poupée de cire douée de la faculté de se mouvoir. La surprise et le plaisir se peignirent dans la contenance de nos illustres hôtes quand ils virent ce diminutif de l'humanité beaucoup plus petit qu'ils ne s'étaient évidemment attendu à le trouver. Le général avança d'un pas ferme et quand il se vit arriver à la distance convenable pour saluer, il s'inclina avec beaucoup de grâce et dit « Bonsoir, mesdames et messieurs ». Un éclat de rire accueillit ce salut. La reine le prit par la main et fit avec lui plusieurs tours dans la galerie en lui adressant beaucoup de questions auxquelles il répondit toujours de manière à tenir toute la compagnie dans un état d'hilarité continuelle. Alors là, après un succès pareil en Angleterre, vous imaginez bien que les autres capitales d'Europe ne veulent pas être en reste, bien entendu. On va conduire Tom Pouce à Paris, bien sûr. D'ailleurs, il va rencontrer, mais alors là, d'une façon pas du tout officielle, je trouve ça d'ailleurs assez élégant de la part de la cour de France à l'époque, il va rencontrer le roi Louis-Philippe, mais qui est simplement en train de se promener dans le jardin des Tuileries comme s'il était un bourgeois de Paris, vous voyez. Enfin, il tenait à le voir quand même, bien entendu. Il va lui arriver toutes sortes de choses en France, on va y revenir tout à l'heure. Et puis ensuite, après la France, eh bien c'est l'Espagne, c'est la Belgique. En Belgique, Barnum et Tom Pouce sont agressés par des brigands. Tom Pouce réussit à échapper à ses ravisseurs et grâce à un signalement d'un des ravisseurs fournit un comte chez qui il a trouvé refuge, il réussit à faire libérer Barnum. Mais ça c'est extraordinaire pour Barnum, vous imaginez, ça fait une histoire fabuleuse à raconter. Allez, on est reparti pour un nouveau tour d'Europe. Ça va durer 2 ans en tout, cette histoire. Et il semblerait que ce nouveau tour d'Europe ait rapporté à Barnum $1 million de l'époque, ce qui est une somme absolument gigantesque. Et Barnum partage, en tout cas donne une partie des bénéfices à la famille de Tom Pouce. De retour en Amérique, le général, comme on l'appelle, est reçu à la Maison Blanche. Bah oui, maintenant que la reine Victoria l'a vu, on peut pas faire moins, évidemment. Voilà ce que dit Barnum. Je reviens chez moi à Bridgeport dans le Connecticut, vers la fin du mois de mars 1848 et je fus ravi d'y retrouver ma famille et mes amis en bonne santé. Depuis 13 ans, je n'avais presque pas goûté les douceurs du foyer domestique. Aussi, je ne puis dire avec quel sentiment de béatitude je réfléchissais que mes fatigues et mes privations passées m'avaient enfin assuré une heureuse aisance. Bah oui, il a réussi, monsieur Barnum. Est-ce que c'est par des moyens très louables? Ça, c'est une autre histoire. Il va faire faillite quand même dans les années 1850. Il doit repartir de zéro. Il repart avec Tom Pouce, bien entendu. Il rachète d'ailleurs l'American Museum. C'est une espèce de résurrection pour lui. Et à cette époque, Tom Pouce va rencontrer l'amour en la personne de Lavinia Warren. Elle a 21 ans. Elle a la taille d'une fillette de 5 ans. Barnum la prend dans sa troupe et Tom Pouce immédiatement va avoir pour elle le coup de foudre. Alors on va faire un mariage, 2000 invitations, grand événement. Et allons-y, une fois de plus, Barnum en rajoute. Il a d'ailleurs fait courir le bruit qu'on ne verrait plus jamais Tom Pouce en public après son mariage. Alors, ce qui fait que tous ceux qui ne l'ont pas vu, évidemment, veulent être là. Et on fait payer les entrées, bien entendu. Tom Pouce va finir par se retirer. Il meurt à 45 ans d'une attaque d'apoplexie. Et voilà ce que comporte son épitaphe, je cite « Le Créateur m'a donné un petit corps, mais je pense qu'il n'a contracté ni mon cœur, ni mon esprit, ni mon âme. » Barnum s'est toujours présenté lui-même comme un publicitaire, comme un homme de musée et non pas comme un homme de cirque. Il faut en être conscient. Et pourtant, en 1871, il va organiser une grande, avec un entrepreneur d'attractions foraines, il va entreprendre une grande tournée, une sorte de grand musée itinérant, mais avec une ménagerie, avec des numéros. Et là, alors là, on est dans un cirque, un véritable cirque, 5000 places. À l'époque, 2 pistes et pas encore 3, 80 wagons, 3 locomotives. Succès absolument phénoménal grâce à un éléphant qui s'appelait Jumbo. Mais là, nous sommes déjà dans le cirque et nous sommes déjà dans la matière de Christian Bonner. Bonjour Christian Bonner, merci Bonjour. Beaucoup d'être venu pour nous parler. Alors, moi j'ai raconté toute la partie non circassienne de la vie de Monsieur Barnum, mais c'est vrai qu'à partir de 1871, avec son associé qui s'appelle Bailey, il va monter ce qui est le premier grand cirque itinérant américain en quelque sorte.
Oui. Hein. Juste, si on peut revenir un petit peu sur cet aspect de créateur de Star System, il a été le premier créateur de Star System, hein. Vous avez parlé de la nourrice, il en a fait
de Washington, la célébrité, en
absolument.
Fait.
Et bon, il y a eu Tom Pouce, mais alors, ce qu'on ne sait pas, enfin, ce que vous savez peut-être pas, c'est que il a appris un jour que Sarah Bernhardt, la grande tragédienne, allait être amputée d'une jambe. C'était une contemporaine, évidemment, de Barnum. Et aussitôt, il lui a télégraphié en lui offrant 100 000 dollars pour pouvoir récupérer cette jambe et l'exposer un petit peu partout. Ça donne aussi l'état d'esprit de Barnum. Alors, la pauvre femme a été horrifiée. Bien évidemment, on ne peut pas dire qu'elle a pris ses jambes à son cou, puisqu'il y en avait une qui était hors d'usage. Mais
c'était ce qu'on appelait le choc des cultures, tout simplement.
Voilà.
Il avait, Barnum, le sens de l'histoire qui fascine. Vous savez, quand on est enfant, dans les cours de récréation, on se raconte des trucs complètement fous, de phénomènes, etc. Bien, lui, il avait gardé cet esprit-là, visiblement, et il avait le don d'en faire un commerce, disons-le. Et il présentait, je parlais de ce film Freaks de 1932, il présentait des phénomènes sans beaucoup, il faut quand même le dire, sans beaucoup d'humanité. C'était d'une grande violence tout ça.
Ils se sont d'ailleurs révoltés à un moment. Ils ont manifesté, c'était à l'occasion d'une tournée à Londres, en Angleterre. Et ils ont manifesté en disant on ne veut pas être appelés des monstres, mais plutôt des prodiges. Alors bon, il y a eu des discussions. Et puis finalement, Barnum a dit non, je vais plutôt vous appeler des strange people, des gens étranges.
Allez, tout de suite, ce sens toujours de la formule qui fait venir le badaud, en fait. C'est ça l'idée. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, dans les fêtes foraines et même dans les cirques, il y avait le battleur d'estrade qui était là et qui appelait les gens entrez, vous verrez la femme avare, mais vous verrez la sirène, etc.
C'était... Oui, c'était l'entresort, ce qu'on appelait. C'est-à-dire, on entrait d'un côté, on sortait de l'autre et au milieu, on voyait des atrocités. Enfin, c'était un bébé à deux têtes dans un bocal, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'était des faux, c'était des poupées, bien évidemment. Mais on a vu l'homme sans bras dont vous parliez. Et la publicité, c'était qu'il pouvait écrire avec ses pieds, il pouvait même tailler ses plumes et il pouvait également enfiler des aiguilles avec son pied.
Le film Freaks date de 1932. Il faut dire que tout ça a existé. Alors de moins en moins, bien sûr, mais jusqu'à la fin des années 50. Hein, il faut pas l'oublier, c'est-à-dire que ce phénomène de montrer des phénomènes dans les foires s'est répandu jusqu'à une période récente en
oui,
fait.
Oui, il y avait entre autres l'homme à l'estomac d'autruche qu'a présenté Barnum, mais on a eu aussi ça dans les fêtes foraines. Alors Barnum, celui de Barnum avalait du verre, des cailloux, enfin des choses impossibles. Et en Europe, le fameux Kanouchka, lui avalait des grenouilles et des poissons rouges vivants et les régurgitait vivants, bien évidemment. On avait dit qu'il avait un estomac capable de contraction qui lui permettait cet exercice, mais enfin le pauvre homme est mort quand même d'une inclusion.
Ouais, vous dites le pauvre homme, mais les pauvres grenouilles, ce n'était pas formidable non plus.
Oui.
Alors, vous êtes venu d'ailleurs avec un numéro de la très belle revue Scène et Piste qui présente un certain échantillon de toutes les curiosités qu'on pouvait voir chez Barnum. Il y a vraiment de tout dans tous les domaines. C'est assez étonnant.
Mais en fin de compte, ce sont des pauvres êtres, je dirais. Mais c'était ce goût à l'époque du voyeurisme. Il y avait un voyeurisme qui était malsain. Il faut se rappeler que à la même époque, le pétomane Pujol triomphe à Paris.
Oui, mais voilà. C'est cette curiosité un peu grasse, on va dire. Bon, on est là loin du cirque tel que nous l'aimons, cher Christian. Mais Barnum est bien à l'origine de ce très grand cirque américain, cirque itinérant, qui va faire en Europe une tournée célèbre et triomphale. Nous y venons bien sûr dans un instant.
De la bande originale du film De l'eau pour les éléphants sur Europe 1, composé par James Newton Howard.
Un très joli film sur le cirque américain, justement, qui est paru qui est sorti il y a quelques années maintenant. Alors, le cirque Barnum, il faut le dire, Christian Bonner, n'est pas une invention de Monsieur Barnum. Pour une fois, c'est pas lui qui invente.
Hein, non, pas du tout. Le premier cirque Barnum est créé quand Barnum a 60 ans. C'est grâce à une rencontre avec William Coop que ce cirque existe. Alors, Coop, il exploitait un petit cirque qui circulait en bateau sur les Grands Lacs. Et ce qui lui manquait, c'était un nom. Alors, il pense à Barnum, bien évidemment, et il lui propose de monter une affaire en association avec lui, de monter un grand cirque. Et Barnum dit « Combien il vous faut ?»« 200 000 dollars », lui dit Coop. « Banco », répond Barnum, et c'est ainsi que naît le premier cirque Barnum, comme vous l'avez dit, d'abord avec deux pistes, et puis très très vite, il va s'agrandir, parce que il est très ingénieux, William Coop. C'est lui qui invente le fameux King Pole, c'est-à-dire le roi des mâts. C'est un mât qu'on érige en premier, et qui permet de soulever tous les autres.
Voilà, c'est ça. C'est un mât porteur, oui, à partir duquel on peut monter le chapiteau 4 ou 5 fois plus vite que si on tirait chaque mât.
Les chapiteaux sont énormes. À l'époque, ce sont ce qu'on appelle des baleines, 140 mètres de long. Enfin, on est déjà dans le gigantisme.
Il y avait des accidents d'ailleurs. On a eu des chapiteaux qui se sont écroulés ou qui ont brûlé.
Oui, il y a eu un incendie terrible à Hartford. Il y a eu c'est bien sûr que c'est arrivé, des accidents de train, voilà, le William, pour revenir à William Coop, puisque l'on parle du train, c'est lui qui a inventé les plateformes plates qui permettaient d'embarquer des remorques, et Dieu sait s'il y en avait à l'époque, les wagons plats, et ensuite il a inventé les fameux wagons pour embarquer les animaux, et notamment les éléphants, il fallait que ce soit évidemment assez haut, et les voitures Pullman qui permettaient au personnel de dormir. Enfin, c'était vraiment une ville qui se déplaçait.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est tout un petit univers hein, qui est en mouvement.
Une armée en marche.
Oui, quand on voit des films comme justement Sous le plus grand chapiteau du monde ou un dessin animé comme Dumbo, le dessin animé de Walt Disney, on a cette ambiance, hein, ces trains qui emmènent une ville entière. D'ailleurs, parfois, il y a même deux trains qui se suivent. Enfin,
il y avait deux trains. D'ailleurs, Alfred Court, alors beaucoup plus tard, en 1940, la Barnum n'existe plus, raconte tout ça dans ses mémoires, et on peut y revenir dans un instant si vous voulez.
Oui, ça a été parce que le cirque a continué évidemment après la mort de Barnum. Il y avait aussi chez Barnum toujours ce même sens de la publicité, et ça va donner naissance à la parade évidemment. Hein. Il organise des espèces de grands défilés de tout ce qu'il peut y avoir de plus étonnant dans le cirque pour justement faire venir la population, toujours la même chose.
Bah oui, l'important c'était toujours d'amener le public, c'est valable encore aujourd'hui. Donc même quand il y avait du bluff, parce qu'il y en a eu beaucoup, l'important, comme l'expliquait Barnum, c'était que le public vienne. Et de toute façon, il n'était pas déçu, il en avait pour son argent, parce que le spectacle qu'il allait voir, même si la publicité était exagérée, était formidable et il repartait content.
Le cirque s'appelait à l'époque P.T. Barnum's Great Circus Museum and Menagerie. C'était donc une sorte de zoo itinérant avec ce cirque extraordinaire, avec tout ce qui peut aller avec. Hein. D'ailleurs, on a oublié aujourd'hui, mais c'était un peu une fête foraine qui se promenait en même temps que le cirque, il faut le dire.
Side show, il y avait la ménagerie plus un certain nombre d'attractions, de stands. On y consommait beaucoup de barbababa et des choses comme ça.
Et tout ça va traverser l'Atlantique. Oui. Il va y avoir cette tournée très célèbre en fait, qui a lieu.
Oui, mais alors auparavant, William Coop, il s'était disputé avec Barnum parce que Barnum, finalement, toujours son sens du commerce, avait voulu louer son nom à d'autres établissements. Et ça plaisait pas du tout à Coop. Donc, évidemment, il y en a qui le font aujourd'hui. Vous savez, le nombre de cirques Zavata qu'il y a en France, bon, c'est ce qu'on appelait déjà la franchise. Et donc il y a eu divorce et puis Barnum est mort en 1891. Alors après, en 1902, Barnum est revenu effectivement en Europe, mais c'était Barnum and Bailey, car il y avait eu association entre les deux.
Bailey étant un entrepreneur de spectacle aussi, bien entendu. Plus tard, le cirque sera repris par les frères Ringling, d'ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça existe toujours, le Ringling Bros and Barnum and Bailey, c'est ça, hein?
Voilà, tout à fait.
C'est un des plus grands cirques du monde. Mais alors, il n'est pas, aujourd'hui, il n'a plus de, comment dire?
De chapiteau.
De chapiteau, hein, c'est ça.
Mais non, ça a perdu de son charme. Alors, il est grand par le nombre d'artistes, le nombre de pistes, mais il n'y a plus cet immense chapiteau qui faisait la gloire de Barnum.
S'il n'y a plus de chapiteau, ça oblige le cirque à se produire dans des stades ou dans des salles de fête, en fait. Hein,
dans des gigantesques, grands rôles, bien sûr. Palais des sports.
Oui, palais des sports, voilà,
c'est ce qui se passe.
Voilà ce qu'on peut lire, parce qu'il meurt, vous nous le dites, Barnum meurt en 1891, le 7 avril 1891, et dans un ouvrage laissé par un de ses collaborateurs, qui s'appelle « La vie de Phileas Barnum », écrite par lui-même, on peut lire « Barnum le banquiste est plus célèbre de par le monde que tant de savants, d'artistes, d'inventeurs, de patriotes, élites de l'humanité. C'est que dans ma carrière, est censé dire Barnum lui-même, de plus d'un demi-siècle, j'ai moi-même pris soin d'illuminer toujours mon nom à la clarté du plein soleil » ou, à son défaut, de la lune, né de pauvres paysans au fond d'un obscur village, grâce à la réclame féconde, je laisserai après moi une cité prospère. Il était très content de sa réussite et il était bien conscient que cette réussite, c'est à la réclame, c'est à ce que nous appelons, nous, la publicité qu'il l'advait.
Et vous savez que quand il est mort, il y avait un coffre dans son bureau et il avait toujours dit à ses collaborateurs les plus proches, vous ouvrirez ce coffre le lendemain de ma mort. Alors, tout le monde s'est réuni, certains sans doute espéraient avoir quelque chose du défunt, et finalement, il y avait à l'intérieur des exemplaires de ses mémoires dédicacés à chacun de ses collaborateurs. Voilà, une belle leçon d'humilité.
Alors, ça fait un petit moment que j'ai envie d'y venir, parce que c'est pour nous le grand souvenir, bien entendu. C'est cette fameuse tournée de 1902, donc après la mort de Barnum, mais quand le cirque débarque en France, ça va faire beaucoup de bruit. On y vient dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire du cirque Barnum cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Christian Bonner, ancien journaliste d'Europe 1, spécialiste du cirque, administrateur du Festival mondial du cirque de demain.
Alors, il faut dire, Christian Bonner, que lorsque Barnum débarque en France, Barnum, le monsieur, lui, n'est plus.
Hélas, non. Mais sa renommée est telle que ça déplace les foules. On parlait d'incident. Il y a eu un incident au cours de cette tournée à Tours où un éléphant, Fritz, un éléphant a pris peur et il a fallu le maîtriser. Et malheureusement, personne n'y est arrivé. Il a fallu l'étrangler sur place, ce pauvre Fritz. Et le cirque Barnum a offert la carcasse à la ville de Tours. Et Tours où l'on peut toujours d'ailleurs voir Fritz qui a été naturalisé.
Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, comme j'étais dans la région, ça faisait partie des curiosités qu'allaient voir les enfants. C'est dans une sorte de garage du musée, en fait.
Voilà.
Hein, c'est ça,
hein. Il était pas aussi imposant que Jumbo, puisque vous savez que Jumbo mesurait 3,50 m. Alors, pour vous donner une idée, selon les normes actuelles de construction, du sol au plafond, il y a 2,50 m. Alors, approchez-vous du mur, regardez au plafond, c'est un mètre au-dessus encore en plus. Donc,
ce Jumbo, c'était un phénomène.
Un phénomène,
pour le coup,
absolument. Oui. Alors ce pauvre Fritz, bon, voilà, il a terminé sa carrière, si on peut dire, à Tours, en France.
Alors le cirque Barnum arrive en France en 1901, il est à Paris en 1901, et puis la tournée va se prolonger, donc 1902, il passe dans toutes sortes de villes où c'est devenu un phénomène. Il n'y a pas qu'à Tours qu'on s'en souvient.
Partout, parce que il pratiquait la ville d'un jour, et c'est ça qui était extraordinaire, c'était ces trains entiers, il y avait 1400 personnes qui voyageaient avec le cirque, donc 400 monteurs. Je sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Et c'était une ville qui s'installait dans la ville avec des restaurants, avec tous des commerces, enfin, voilà.
Le cirque va devenir, alors à l'époque il appartient à Bailey, très vite il est vendu au Ringling, en quelle année c'est 1906 hein,
alors,
je crois.
Alors c'est peut-être, oui c'est ça, en 1906 il est vendu à, et devient le cirque Ringling, Boss Barnum & Bailey comme vous l'avez dit, et existe toujours sous ce nom, bien qu'il soit exploité aujourd'hui par Kenneth Feld, fils d'Irvin Feld qui avait racheté à l'époque le cirque à John Ringling North.
C'est ce cirque qu'on voit dans le film, sous le plus grand chapiteau du monde.
Alors sous le plus grand chapiteau du monde, ça a été tourné en 1952, c'est effectivement le Ringling Boss Barnum & Bailey, qui n'était pas encore sous la direction de Feld, mais appartenait à John Ringling North. Et ce film est plus qu'un film, c'est un documentaire véritablement, puisque ça a été tourné pendant justement une tournée du Barnum.
Qu'est-ce qui attirait dans les années, au début du XXe siècle, qu'est-ce qui attirait les gens? Est-ce que c'était toujours les monstres? Est-ce que c'était toujours les phénomènes
non,
de foire?
C'était le gigantisme. C'était ce grand chapiteau, cette multitude de clouds, ces éléphants. Il n'y en avait plus autant, mais il y avait encore 15 éléphants dans le spectacle. Un troupeau de 15 éléphants, c'est impressionnant, bien évidemment. C'était le gigantisme qui attirait les foules.
D'où Jumbo, qui venait du Zoo de Londres.
Il est revenu d'ailleurs le cirque Barnum à Paris en 1963, au Palais des Sports de Paris, l'actuel Palais des Sports. Ça n'a pas bien marché, mais il faut dire que Barnum était venu avec le minimum et qu'il avait engagé les artistes européens, donc ce n'était pas vraiment Barnum.
Est-ce qu'il a donné, est-ce que l'exemple de ce très grand cirque a été suivi? Est-ce qu'il y a eu des...
Oui, en Allemagne, il y a eu Gleich, Krone, qui ont eu des...
Krone copié Barnum, on peut dire ça?
Non, parce que c'était une piste, mais il faut bien qu'en Europe...
L'organisation en tout cas.
L'organisation et le gigantisme. Krone a été un cirque géant, Gleich a été un cirque géant, Sarrazani a été un cirque géant. Ils étaient surtout en Allemagne.
Oui. Est-ce que, parce que évidemment il faut avancer dans le temps, est-ce qu'il y a eu par la suite des vedettes chez Barnum, aussi célèbres qu'avaient pu l'être Tom Pouce ou l'éléphant Jumbo?
Oui, il y a une histoire, il faut la raconter parce que c'était sous le règne de Feld, donc c'est assez récent, où ils avaient annoncé une licorne. Une véritable licorne vivante. Alors,
quand vous dites assez récent, on est à quelle époque à peu près là?
On est il y a une dizaine d'années.
Non, c'est très récent. Oui.
Et donc cette licorne, les journalistes voulaient la voir, mais surtout la Société protectrice des animaux s'en est inquiétée. Comment est-on arrivé à... C'est une transformation, c'est pas possible. Alors, il y a eu un mystère autour de ça, et les journalistes au départ ont été un peu écartés. Et puis finalement, le pot aux roses a été découvert. C'était effectivement une chèvre. Et à la naissance, on avait réuni les deux embryons de ces cornes pour en faire qu'une, et on avait mis un tuteur. Et effectivement, cette chèvre avait une seule corne sur sa tête.
Oui, donc on voit que cet esprit assez malsain des débuts de Barnum n'est pas tout à fait mort partout,
pas tout à fait.
Bon, il y a une véritable concurrence entre les grands cirques, hein, il faut le dire, dans les années à partir des années 20 et 30. Là, ça a été une guerre en quelque sorte.
Oui, mais c'était déjà la guerre entre Barnum et Bailey et les Ringling, par exemple.
Déjà,
mais il y avait d'autres cirques américains. Il y avait Colbros, Sells, enfin. C'était la guerre.
Les Bouglione se sont inspirés de...
Oui, tout à fait. Eh bien, ils avaient ce sens aussi de la publicité. Alors, oui, et quand ils ont engagé, enfin, ils sont partis avec sous le nom de Buffalo Bill. Et Buffalo Bill était mort. C'est un peu comme la nourrice de Washington. Buffalo Bill était mort depuis déjà un bon moment, mais ils ont présenté le cirque Buffalo Bill grâce à des affiches qui dataient de l'époque et qu'ils avaient rachetées. Mais encore une fois, le public n'était pas déçu, parce que même s'il ne voyait pas le vrai Buffalo Bill, le spectacle était tel qu'il partait content et satisfait.
Alors tout à l'heure, Céline a cité le Festival mondial du cirque de demain, dont vous êtes un des piliers.
Au Cirque Phoenix d'Alain Pacherie, qui est un cirque extraordinaire.
Là, on est dans un cirque qui est le cirque actuel, un cirque d'acrobatie où ne figurent pas d'animaux, ou en tout cas quasiment pas. Non, on peut dire pas du tout d'animaux, il n'y a même pas de chevaux. C'était pas du tout l'esprit du cirque à la Barnum, hein, là, pour le
mais
coup.
C'est quand même,
au contraire,
non,
même. Hein.
Oui, mais le cirque a évolué.
Oui.
Il y a une évolution du cirque. Il y a du cirque avec animaux qui a toujours autant de succès. Il y a le cirque, bon, qui sans animaux, qui comme celui d'Alain Pacherie, qui donne des spectacles. D'ailleurs, cette année, d'ailleurs, le cirque africain, ce qui est ça va être une véritable, enfin pas tout à fait découverte, puisqu'il a présenté déjà le cirque africain il y a 2 ans, oui. Mais ça a été un tel succès que justement il y a le cirque africain revient avec d'autres numéros. Il y a des écoles de cirque en Afrique, c'est aussi récent. Ça, c'est l'évolution du cirque. Et Alain Pacherie a un chapiteau qui était très important, qui est pas aussi grand que l'était Barnum, parce qu'aucun cirque aujourd'hui ne peut l'être, mais qui est aussi un très très grand chapiteau.
Il y a de grands dresseurs qui ont fait la célébrité du cirque Barnum. Enfin, Ringling Bros and Barnum and Bailey.
Oui, il y a eu Alfred Court. C'était des Français. Il y a eu Alfred Court. Il y a eu en vedette aussi en piste centrale. Parce que quand on est une vedette, on est au centre.
Voilà,
la piste centrale. Il y avait également Wolfgang Holzmeier, qui était un dresseur qui est récemment disparu et qui avait cette vedette. Alfred Court a présenté des numéros même sur les trois pistes, puisqu'il avait des élèves sur les pistes latérales qui présentaient aussi des numéros. Il était impressionné par Barnum, et lui-même, quand il est revenu en France, il a créé le Zoo Circus, qui se voulait une copie de Barnum. Et il a fait un cirque géant aussi, mais ça n'a pas duré. Les frais étaient trop énormes.
Et le célèbre Gunther Gebel Williams, c'était aussi
un Allemand.
Tête d'affiche
Tête d'affiche. C'était une star.
Une star,
aux États-Unis,
on peut dire.
Une véritable star.
Il était aussi connu
d'ailleurs,
qu'une vedette de cinéma, en fait.
Oui, quand on l'a vu pour la première fois au cirque d'hiver de Paris, c'était un monsieur avec une petite barbiche. Il était complètement transformé quand il était aux États-Unis. Il avait les cheveux longs, il était blond, il était magnifique. Barnum en avait fait une star.
Oui. Il y a eu, je parlais tout à l'heure d'accidents, etc. Étant donné l'immensité des chapiteaux, il y a eu un grand incendie dans les années 50. Il y a eu des
Hartford. Il y a eu un incendie. Oh, c'était plutôt que ça. Où il y a eu beaucoup de. Il faut dire qu'à l'époque, les chapiteaux, bien évidemment, n'étaient pas ignifugés. C'était de la toile. Et alors qu'aujourd'hui, ce sont des toiles plastiques. Il n'y a plus ce problème. Mais à l'époque de la toile, bien évidemment, c'est une telle catastrophe pouvait arriver.
C'était le cirque Barnum, c'était on l'a pas dit. 6 juillet 44.
Voilà. On l'a pas dit, mais le cirque Barnum, le chapiteau, s'est arrêté en 1956 et a donné sa dernière représentation avant pour se produire uniquement dans les halls. Mais parce que les frais étaient trop importants, il fallait tellement de monde pour monter ce cirque que ce n'était plus possible.
Alors, il y a un personnage qui a fait revivre la légende de Barnum, c'était Yves Mourousi. Vous rappelez ça, bien sûr, Christian Bonner.
Oui, bien sûr, parce qu'on avait créé avec Guy Descartes, Jean Descartes, Jacqueline Cartier, on avait créé la PAFDEC, la presse associée des variétés, de la danse et du cirque, qui soutenait les spectacles. Alors, Yves Mourousi était passionné par le cirque, par la fête foraine, par la danse. Et bien évidemment, quand la comédie musicale Barnum a été créée, il a eu qu'une idée, c'était de monter, lui qui était un homme de spectacle, hein, de monter cette comédie musicale à Paris. Il a obtenu l'accord des Bouglione de transformer le cirque. Il a complètement changé les décors. Il en a fait une petite merveille. C'était un peu le décor du, comme dans le film de Lola Montez. Il a remis des très grands lustres. Il était partout. C'est lui qui a sélectionné les danseurs de cette comédie musicale. Il était très exigeant. Une fois qu'il les avait choisis, il les envoyait chez Béjart en Suisse pour qu'ils fassent un stage. Ça a été vraiment un très
aventure,
beau spectacle.
Oui. Il y a, on a parlé tout à l'heure du Festival mondial du cirque de demain. Vous avez parlé du cirque Phénix que va présenter Alain Pacherie, mais ça sous son immense chapiteau fixe, hein, à la pelouse de Reuilly. Il y a bien sûr le cirque d'hiver de Paris où les Bouglione présentent chaque année un très beau spectacle. Il y a le cirque Grus, etc. Mais on a l'impression que les grands cirques itinérants ont un peu passé de mode. Il y en a de moins en moins.
Pas du tout. Non, je suis désolé de vous décevoir.
Mais au contraire.
Pas du tout.
Ma question attendait cette réponse.
Non. Le cirque Arlette Grus est un magnifique cirque qui circule dans toute la France. Simplement, il a abandonné les villes d'un jour parce que pour donner un bon spectacle, c'est souvent, il faut beaucoup de projecteurs, beaucoup de lumière.
Il y a plein d'air. Il y a les cirques Avatar,
qui
parliez,
est le cirque traditionnel par excellence, qui a toujours un énorme succès avec des numéros de fauve. Frédéric Edelstein présente un numéro de fauve de Lion Blanc actuellement tout à fait remarquable. Ils sont tout jeunes. Il y a le cirque Amar, il y a le cirque Diana Moreno à Paris, mais alors, qui est fixe, qui porte d'Aubervilliers, qui est le cirque de la Belle Époque. avec un très joli décor. Non, le cirque marche bien en France. J'espère ne pas en avoir oublié parce que
c'est agréable de dire ça.
Il y a Medrano aussi, il y a Medrano.
Lorsqu'on a connu il y a 30 ans une situation complètement opposée, hein, où il
fallait ça allait très très mal. C'était en 1978 les premiers dépôts de bilan, Jean Richard notamment. Et il y a eu une politique en faveur du cirque, mais qui a profité surtout au nouveau cirque, pas tellement au cirque traditionnel, mais ça fait rien parce que le nouveau cirque a permis de booster le cirque traditionnel, en fin de compte, qui lui s'est renouvelé. Et l'un dans l'autre, et bien c'est finalement le cirque s'est tourné vers une véritable création artistique, qu'il soit traditionnel ou qu'il soit nouveau.
Merci beaucoup Christian Bonner. Je n'ai pas vos livres sous la main, mais vous aviez écrit justement
j'ai écrit un livre sur la radio et le cirque justement, où je parle de Louis Merlin, fondateur de cette maison, puisqu'il avait créé le Radio Circus à l'époque. Et donc c'est un livre qui retrace cette période où le cirque et la radio faisaient bon ménage.
Maintenant vous saurez, je dis ça parce que plusieurs de nos auditeurs et auditrices ont envoyé des messages à ce sujet, d'où vient cette expression quand on parle d'un barnum et d'un grand barnum. Merci beaucoup Christian Bonner.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Patrick. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Et il aimerait connaître l'origine de cette coutume qui se perd, dit-il, des feux de la Saint-Jean.
Alors les feux de la Saint-Jean, là on est typiquement dans ces espèces de fêtes païennes, vous savez, qui remontent à la nuit des temps et qui ont été par la suite récupérées. On parlait de ça à propos de sorcellerie hier avec Michel Carmona. C'est exactement ce genre de phénomène. En l'occurrence, c'est le 24 juin, bien entendu. On est au moment du solstice d'été. Donc, vous imaginez tout ce qu'il pouvait y avoir autrefois à cette date-là. Et voilà qu'arrive le christianisme. Les fêtes païennes n'avaient plus lieu d'exister. Et pourtant, comment demander aux gens de renoncer à des réjouissances qui s'étaient complètement ancrées, je vous dis, dans les consciences depuis très très longtemps. Il fallait simplement trouver une nouvelle dénomination d'une certaine façon. Alors on a décidé de célébrer cette fête en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, cousin de Jésus, lui qui baptisait les foules dans les eaux vives du Jourdain, vous savez. Alors au Moyen-Âge et pendant l'Ancien Régime, le 24 juin était un jour chômé. Ça va pas durer cependant, puisqu'à partir de 1801, on décide de lui retirer son caractère de jour férié. À Paris, on érige des bûchers sur la place de Grève, l'actuelle place de l'Hôtel de Ville. C'est d'ailleurs le roi en personne qui vient allumer le... Pas toujours, mais il est arrivé assez souvent que le roi vienne lui-même allumer le feu sur ses bûchers. Et lors de ces fêtes, les animaux auraient été, dit-on, livrés aux flammes en guise de sacrifice. Ça, il faut remonter loin quand même pour voir ça. D'autres coutumes existaient également en fonction des régions. Par exemple, dans la Creuse, les célibataires devaient tourner autour du feu 9 fois pour s'assurer de trouver l'amour dans l'année. Et dans la région plus dans le sud-ouest, on jetait une pièce au feu qu'il fallait ensuite aller récupérer au milieu des braises et des cendres pour s'assurer la prospérité tout au long de l'année. Aujourd'hui, les feux de la Saint-Jean sont nettement plus rares, mais ils existent toujours, bien entendu. Alors le problème, c'est que vous savez comment sont les réglementations municipales maintenant. Il y a tellement de normes et de choses à respecter pour la sécurité qu'on a presque envie de rentrer chez soi. On va même plus au feu de la Saint-Jean. Elle était la star de notre conférence de presse de rentrée ce matin. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck, je vois que vous avez une notion du mot star très généreuse.
Pertinent.
Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une vraie star, elle, qui est Amélie Nothomb.
Et comment ?
Qui, comme tous les ans, revient avec un nouveau roman. Ça s'appelle Pétronille et c'est un des plus drôles que j'ai lus. Elle y fait preuve de beaucoup d'autodérision et elle y parle surtout de sa passion pour le champagne, à consommer donc sans modération.
Merci beaucoup Marion.
Merci
et
à
je
vous
Je remercie
Franck.
Aussi Lorena, Marion, Mathilde, Christophe et Jean-François, toute l'équipe d'Au cœur de l'histoire. Je vous dis à demain Céline.
À demain Franck.